Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de vie. Sixième déjà, oui. Je suis très content de vous annoncer que c'est le sixième depuis le mois de décembre. Merci à tous. Merci à ceux qui me font de très jolis retours. Je suis ravi que ça vous plaise. Et je continuerai encore et encore tant que l'envie sera là, autant la vôtre que la mienne. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité, donc un épisode un petit peu particulier. Évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, car vous le savez, je suis un petit peu trop pragmatique et terre-à-terre pour ça, mais je serai en compagnie de mon ami François, créateur de l'éphémérite d'Hermès, et il nous expliquera le principe juste après cette petite réflexion. Pour vous, c'est quoi la spiritualité ? Personnellement, jusqu'à ce que j'en discute avec François, ça s'arrêtait à Casper le fantôme ou à des trips ou LSD, même si j'avoue que j'en ai jamais pris. Mais quand on y réfléchit, c'est bien plus profond que ça et surtout propre à chacun. En enquêtant sur le sujet, je me suis rendu compte à quel point tous ces gens qui disent avoir trouvé la voie de leur spiritualité ont pour la plupart trouvé une certaine paix intérieure. Du coup, je me demande pourquoi on ne s'occupe pas de trouver sa propre voie de spiritualité au quotidien. Parce que tout ça m'a amené à la réflexion suivante, la société manque-t-elle cruellement de spiritualité ? Depuis quelque temps, à défaut de manquer de spiritualité, la société manque surtout de calme et de discernement. Chacun y va de plus en plus de sa colère pour crier sa différence, s'offusquer, s'offenser de tout, et en chacun monte de plus en plus la détestation. À vouloir le droit à la différence, on en arrive à la différence des droits, et le « moi je suis comme ça et j'ai besoin de te l'imposer ». Le pire étant que cette situation est née au départ d'une envie de vivre ensemble pour finir par vivre les uns contre les autres. Oui, la vie n'est pas toujours rose, elle est même extrêmement difficile pour certains, mais bizarrement, ce ne sont pas forcément ceux-là que l'on entend se plaindre et s'offenser. La woke culture, ce phénomène venu des États-Unis qui n'accepte pas que tel ou tel propos puisse offenser quelqu'un. Et si l'on savait prendre les choses avec un petit peu de recul ? Si justement on allait chercher en soi un peu de spiritualité sans avoir besoin de convaincre sans arrêt l'autre ? François nous l'expliquera très bien dans l'interview qui va suivre. Je le reconnais, j'essaie d'être le plus humaniste possible et pourtant, il m'arrive aussi d'en avoir assez. D'avoir le besoin de faire entendre mon mécontentement sur certaines situations. Mais pourquoi ? Qui je suis pour ça ? Qui a envie d'écouter ma colère ? Est-ce que c'est pas plus agréable de parler avec paix d'un sujet qui fait du bien ? Dans le premier épisode de vie, je parlais de l'ennui, d'apprendre à savoir s'ennuyer, sans que cela ne soit un supplice. Eh bien l'ennui est sûrement la cause de tous ces maux de la société. On s'ennuie, donc on s'énerve, et comme on s'énerve tout seul, ce n'est pas drôle, alors on cherche un coupable, quelqu'un à blâmer, ou tout simplement l'affront avec celui qui n'est pas d'accord. Ok, ça reste mon point de vue, mais je ne cherche pas à vous convaincre, puisque personnellement, j'en suis déjà convaincu. C'est donc après cette petite analyse tout à fait personnelle que nous allons retrouver François pour nous parler de sa quête de spiritualité, sa vision du monde, des gens et le bien-être qu'il trouve à travers sa vision des choses. Alors François, bonjour.
Salut Camille.
Ça va ?
Ça va très bien.
Alors j'explique que quand même, pour, au cas où le rapport vous semble hyper familier, avec François nous sommes amis depuis plusieurs années. Voilà, ce sera évidemment plus normal. Enfin bon, bref, tout le monde m'a compris. Alors François, avant de parler de toi et de ta vision de la spiritualité, j'ai une question. C'est quoi une quête de spiritualité ?
Ouh, une quête de spiritualité, ça fait beaucoup de choses. Bah, alors déjà, il y a la quête. La quête, c'est le principe de se mettre en mouvement vers un objectif. Et la spiritualité, c'est donc des choses de la nature de l'esprit, donc tout ce qui a lié, tout ce qui est lié en fait au sens de la vie. Donc une quête de spiritualité, je pense que c'est une quête de sens.
D'accord. Bah, là, c'est clair.
Ah, bah, très bien.
Parce que le principe de vie, c'est qu'on parle de toi. Quand tu étais enfant et ado, est-ce que tu la sentais déjà, cette quête ?
Alors oui, et je pense que tu ne... D'ailleurs, que j'ai peut-être une surprise pour toi, mais ça a commencé très, 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 très jeune. Moi, j'étais très curieux petit. Je suis toujours très curieux. Je pense que je ne suis pas beaucoup grandi depuis. Et je me rappelle que déjà... Une anecdote que j'ai, par exemple, à 7 ans, tu vois, j'étais dans la voiture avec mon père, et il me rappelle cette histoire souvent, où je lui dis, mais en fait, la vie, c'est comme un jeu, mais il faut comprendre la notice, et déjà, j'avais une espèce de curiosité de comprendre, tu vois, pourquoi les choses étaient comme elles étaient.
Oui, mais, enfin, là, c'est plus de la curiosité, mais est-ce qu'il y avait cet aspect spirituel des choses, parce qu'on va découvrir petit à petit que... Avec une philosophie des choses très particulières, il y a quelque chose de très ésotérique, etc. Enfin, on en parlera tout à l'heure.
Bah,
Mais est-ce que ça a toujours été en toi, ça t'a toujours travaillé ?
Ça a toujours été en moi et de manière très très bizarre. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand j'étais, en CP, tu te rappelles, on a appris à lire en CP.
Ouais, papa, ouais.
Toi, je sais pas si t'as appris, ouais, je crois que oui. Enfin, moi, j'ai appris à lire et le bouquin qu'on m'avait fait lire, c'était Charlie la chocolaterie. Et peu importe sur ça, mais je suis sorti de là en me disant, mais c'est incroyable, je sais lire, je peux faire plein de trucs. Et figure-toi que je ne sais pas comment, je suis allé dans une espèce de CDI, tu vois, une espèce de bibliothèque où t'avais cette femme avec les grosses lunettes là. Et j'avais trouvé une Bible pour enfants et je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Et je suis rentré chez moi en disant à mes parents, mais je veux me faire baptiser. Mes parents n'ont pas compris, tu vois, mon père n'est pas baptisé. voilà. Et donc je suis rentré dans un process à ce moment-là. Donc j'avais déjà ce truc très jeune.
Mais du coup, c'est une question qui devait venir après, mais du coup j'ai envie de la poser tout de suite. Il y a un lien entre spiritualité et religion, puisque là tu me dis, il y avait une Bible pour enfants. Pourquoi une Bible pour enfants plus qu'un livre sur le jardinage, tu vois ?
Alors la religion, ça fait partie de la spiritualité, c'est une forme de spiritualité. Le principe de la religion, c'est que ça a des dogmes, c'est-à-dire qu'on te dit il faut faire ci, il faut faire ça, voilà, c'est une façon de voir les choses. Et la spiritualité, de manière générale, ça explique le pourquoi des choses, alors que la science va expliquer le comment.
À quel moment t'as eu le déclic, vraiment, de te dire que ça allait devenir, non pas un but dans ta vie, mais une partie de ta vie ?
Ben, en fait, c'est pas un déclic, c'est-à-dire que depuis tout petit, moi, j'ai eu beaucoup de passion, parce que je suis assez curieux et j'ai un tempérament passionné, mais ce qui m'a toujours fasciné le plus, c'est de regarder par la fenêtre et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, la vie, c'est quand même c'est un truc de fou, tu vois. Personne n'a vraiment de notice, comme je le disais avant. T'arrives là, tu sais pas pourquoi. Et moi, dans ma curiosité presque maladive, j'ai rien trouvé de mieux à faire que d'explorer ce truc-là.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que les gens qui te connaissent pas, je le dis pour eux, c'est que François est capable de s'émerveiller d'un rien. C'est vrai que tu peux être curieux de rien du tout.
Bien sûr. Ouais, non, mais oui, je te regarde sans parler parce que je.
Non, mais c'est vrai. Toi, il suffit que tu regardes par la fenêtre pour regarder deux personnes qui vont se croiser de telle manière pour te dire, tiens, pourquoi ils se sont croisés comme ça et pas comme ça, tu vois.
J'exagère un peu, oui.
Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, cette quête de spiritualité, cette curiosité ?
Bah, alors, si tu veux, la quête de sens, elle est là pour expliquer ce qu'on fait de manière de la vie de tous les jours et donner de la profondeur. Ce qu'elle apporte, c'est par exemple, je prends un exemple concret, tu vois, tu passes dans la rue, tu sors de chez toi, puis tu vois qu'il y a des fourmis par terre. Si tu connais pas le principe, tu vois des fourmis, tu dis c'est quoi ce bordel, tu passes et tu continues. Si tu connais le fonctionnement des fourmis et que tu sais qu'il y a une reine, elle sort une fois par an, elles vont s'accoupler une fois par an, ce qu'on appelle des éphémères, et puis après, la reine va se couper les ailes, se mettre dans une nouvelle fourmilière, et puis faire des ouvriers, et puis faire certains types de fourmis. Et puis du coup, quand tu les regardes, tu vas pas les regarder à la même chose, tu vas regarder avec plus de profondeur. Et l'émerveillement, ça naît en fait de la connaissance. Quand tu connais les choses, tu vas beaucoup plus les apprécier. Par exemple, chez toi, je sais pas, tu as peut-être ce verre, ce couteau, peut-être des objets que tu as. Comme tu connais leur histoire, ils ont de la profondeur. Et quand tu les regardes, tu vois autre chose que le commun des mortels qui va voir cette statue qui est posée là. Et pour moi, elle signifie rien. Pour toi, je suis sûr qu'elle renvoie beaucoup plus.
Oui, mais toi, dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça te rend plus heureux ? Déjà, avant que tu répondes à ça, j'ai une question qui me vient, c'est, en gros, c'est quoi la spiritualité pour toi ? Parce que c'est vrai qu'on parle de la quête de spiritualité, etc. Mais parce que, moi, je te connais, je sais que tu as une vision des choses bien à toi. Donc, c'est quoi cette vision à toi ? Comment tu l'expliques ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Quel bien-être ça t'apporte de... Est-ce que ça a changé ta vie ? Est-ce que tu te sens beaucoup plus cool depuis que tu as été chercher ces choses-là, etc.
Bah, disons que la spiritualité, dans un premier temps, c'est peut-être se rendre compte qu'il n'y a pas que la partie sensible. C'est-à-dire qu'il y a nos cinq sens qui nous permettent d'appréhender le monde, mais il y a aussi autre chose au-delà, qui est le pourquoi des choses. Ce que ça va apporter, c'est-à-dire que, je peux te donner un exemple, quelque chose dont je me suis rendu compte en explorant ce monde du sens, c'est que finalement, n'importe quel être humain avait des croyances. La croyance que les hommes sont peut-être infidèles, la croyance que la vie c'est difficile, la croyance que la vie il faut pour réussir beaucoup travailler. Et tu vois, ça fait partie ces croyances en fait, j'ai remarqué à quel point elles façonnaient les gens. C'est-à-dire que finalement, si t'es persuadé que la vie est pourrie, tu vas trouver toutes les choses pour corréler le fait que la vie est pourrie. Et tu vois, entre quelqu'un qui dit la vie elle est nulle et quelqu'un qui dit la vie elle est super, Je suis pas sûr que la personne qui dit la vie elle est nulle, elle a une vie plus nulle que la personne qui dit la vie est super.
Ouais.
Donc c'est une question de perçu, tu vois.
Oui, mais celui qui dit la vie est super, il a une perception de sa vie, ou même si elle est nulle, il la trouve super.
Ouais,
et
voilà.
Elle sera peut-être nulle au regard des autres.
Exactement. Donc en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, l'extérieur n'est... On fait plein de choses dans l'extérieur, on va au boulot, on essaye de faire des choses, de meubler nos journées. Mais qu'en fait, le seul endroit où il faut regarder, c'est à l'intérieur. Et la spiritualité, ça commence là. C'est quand on se regarde et qu'on se dit, mais pourquoi j'ai choisi de faire ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça?
Et qu'est-ce qui a changé depuis que tu te consacres à ça? Depuis que tu as créé l'éphéméride, depuis que vraiment... Enfin, moi, j'étais toujours connu, très curieux des choses, mais depuis 2-3 ans, c'est vraiment devenu le leitmotiv de ta vie.
Bah disons qu'il y a, il y a un moment pour apprendre. Je crois que ce moment, c'est tout le temps. Mais il y a aussi un moment où le devoir devient de transmettre. C'est-à-dire que moi, j'avais accumulé beaucoup de connaissances. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu as déjà dû me voir avec des petits carnets, parce que j'aime bien noter des milliards de trucs.
T'avais un carnet où tu faisais des dessins, tu mettais des milliers de trucs, on aurait dit le mec dans Split.
Ouais, mais tu sais que j'ai ma coloc qui me dit, mais ne montre surtout pas ça à des filles, ils vont penser que t'es un serial killer. Non, je tue personne, enfin, du moins pas encore, peut-être que je vais vriller plus tard, mais ça
bon,
on sait
on
pas.
Verra. Oh, tu reviendras pour ce thème-là.
Je reviendrai pour j'ai vrillé à cause de la spiritualité. Mais disons que ça a animé toute la place, parce qu'en fait, il y a que ça. En fait, dans la vie, il y a que ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a que ça. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses, ok, c'est cool, mais tu vois, sur le fronton du temple de Delphes, il y a marqué « Connais-toi toi-même ». En fait, finalement, tu nais, puis à un moment, tu vas mourir, puis entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, ce qu'il faut faire, c'est peut-être essayer de se connaître pour apporter quelque chose. Parce qu'en fait, si tu ne te connais pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller sur, par exemple, tu vas aller sur Instagram, tu vas copier quelqu'un, tu vas trouver ça cool de faire ci, de faire ça. Et comme tu ne vas jamais te poser de questions, finalement, tu ne vas jamais être toi. Parce que tu vas toujours copier des choses. Tu vois, tu vas être conditionné par des gens que tu fréquentes, par ta famille, par plein de choses. Et finalement, tu n'auras jamais fait l'effort de te dire « Mais quelle est ma singularité à moi? Qui je suis? Qu'est-ce que je peux faire mieux que personne ?» Parce qu'il y a un truc que tu peux faire et que personne ne peut faire.
Et est-ce que ça te rend plus heureux?
Moi, je sais même pas comment on peut vivre sans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une question... Alors déjà, oui, la réponse est oui, ça me rend plus heureux. Ça me rend plus heureux parce qu'en fait, ça m'apporte plus de clarté. C'est-à-dire que tu peux aller d'un... Tu vois, il y a plein de gens qui font des trucs, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Mais si tu fais l'effort de te poser la question de pourquoi tu fais les choses, de méditer le matin, au bout d'un moment, tu vas avoir une clarté plus importante et tu vas plus savoir ce que tu fais et où tu vas. Et donc, ça se manifeste par beaucoup moins de questions, donc beaucoup moins d'angoisse, donc une vie plus fluide et donc nécessairement du bonheur parce que au fur et à mesure, tous les obstacles, tu commences un peu à les envoyer balader. Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti chez moi, en tout cas.
Est-ce qu'il peut y avoir une limite dans cette quête? Ou est-ce que c'est infini?
Je pense que la limite, faut faire attendre. La limite, là où elle peut être... Alors non, je pense que...
T'as des mecs qui sont partis en vrille complet avec ces trucs-là. Ils sont partis dans des délires très lointains. Pas moi que j'estime, parce que moi je suis très pragmatique. Mais est-ce que pour toi, il y a une limite? Est-ce qu'il faut quand même rester enclin à la réalité? Ou est-ce qu'on peut s'en séparer complètement?
Disons que quand tu as besoin de t'effacer du monde et de partir loin pour trouver ta spiritualité, moi je me demande à quel point c'est pas une fuite. Tu vois,
oui, oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, moi j'ai été en Inde, j'ai croisé plein de Français qui étaient un peu provoque de dire ça, mais déguisés, tu vois.
Oui, mais vas-y, t'inquiète pas.
Déguisés.
On peut taper sur les bobos ici, t'inquiète pas.
Et moi, quand je parlais avec eux, j'entendais des gens qui fuyaient en fait. Donc, tous ces gens qu'on a dans notre entourage, qui ont pu aller faire un trip spirituel en Inde et revenir prof de yoga, mon père fait partie de ces gens-là, par exemple, tu vois. Donc, j'ai rien contre ces gens-là. Mais il y en a qui ont découvert une vraie spiritualité, et c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est aussi quand ils reviennent, par rapport aux gens qui les connaissaient avant, ils prennent un certain choc. Et après, la limite, c'est pas que ces gens-là, à mon avis, ceux dont tu parles, qui auraient vrillé, c'est pas qu'ils ont vraiment vrillé, c'est juste qu'il y a un moment... Ils avaient tellement besoin d'avoir une carte et ils ont tellement trouvé un truc qu'ils aimaient qu'ils y vont à fond. Et parfois, il y a des formes qui ne sont pas forcément là. Mais après, je pense quand même qu'ils en retirent. C'est un plaisir. Mais surtout, je ne peux pas les juger. J'en sais rien.
Oui, parce que y a des gens comme ça qui partent, qui ont leur quête de spiritualité, puis ils reviennent. Ils reviennent et ils ressemblent à des mecs qui reviennent d'un ashram. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Sans Sarouel et tout. Toi, c'est vrai que... on a, quand on te voit, on n'a pas cette vision-là de toi. On se dit pas que t'es quelqu'un... Enfin, là, j'étais en face de moi, pour moi, je peux, pourrais me dire que t'es dans la finance, tu vois, par exemple.
Ouais. Bah, c'est... Moi, je suis toujours très mal à l'aise avec cette espèce de côté où je montre ce que je suis. Je pense pas qu'il y ait forcément une corrélation entre les deux. Je pense pouvoir... moi, personnellement, je me trouve beau en chemise. J'ai même porté des chemises, tu vois. Et j'ai pas envie d'abandonner ça sous prétexte que je devrais porter un t-shirt ample parce que je suis dans la spiritualité. Mais après, bon, ça c'est un point de vue personnel.
Oui. Est-ce que t'as parfois l'impression que les... Celle-là, j'avais hâte de la poser. Est-ce que t'as parfois l'impression que les gens te prennent pour un fou quand tu parles de tout ça, de cette spiritualité, etc.
Alors, de moins en moins, parce que je pense
moi,
que
ça m'est arrivé de te prendre pour un barjot.
Ouais, au début, quand on s'est connu. Le truc, c'est qu'après, avec l'âge, tu apprends à te taire. Je pense que c'est aussi la... La sagesse qui arrive avec l'âge, c'est de savoir quand faut se taire. Je pense que forcément, quand tu découvres le monde spirituel et que tu as des nouvelles expériences, tu as tellement envie d'en parler. Mais c'est de l'ordre de l'intime et puis ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est passé pour un fou, je pense.
Oui, mais quand tu as une discussion avec quelqu'un et que tu vas partir... Imaginons, tu parles t'es à un dîner, ça parle un peu politique, puis toi, tu vas arriver avec ta vision spirituelle des choses. Est-ce que les gens te regardent avec des yeux grands ouverts en disant mais ce mec est barjot en fait?
Bah écoute, assez rarement je crois, heureusement, parce que je crois que j'arrive à peu près à m'adapter. Ou alors c'est conscient et puis effectivement je pars sur d'autres trucs parce que la discussion me gave et typiquement le sujet politique où les gens vont trouver tout pour se diviser et tout pour essayer de se convaincre. T'as pas d'intérêt pour moi parce que à la fin du débat personne n'a convaincu personne déjà. Oui. Puis il y a une phrase de Lao Tzu que j'aime beaucoup qui dit celui qui croit en lui-même n'a pas besoin de convaincre les autres. Et tu as ce truc de combat de coq où les gens vont... En fait ça ne sert à rien, c'est ultra stérile. Il vaut mieux trouver une espèce de conciliation quelque part et voilà. Alors peut-être que ce genre de propos c'est typiquement ce dont tu parles.
Non, bah non, ça c'est très posé, c'est très sage. D'accord. Tu m'as sorti bien pire. C'est quoi la différence entre la spiritualité et l'ésotérisme?
Alors, la spiritualité, je pense que c'est tout ce qui est de la nature de l'esprit, tout ce qui va être de la quête, de l'ordre de la quête de sens. L'ésotérisme, c'est autre chose. Alors, en fait, il faut bien comprendre que ésotérique, ça s'oppose à exotérique. Okay ? Quand tu vois, par exemple, une cathédrale, ce qui est exotérique, c'est tout ce qui est apparent, c'est-à-dire la façade, les tableaux qu'il y a à l'intérieur, les vitraux. Ça, c'est exotérique. Tu les vois, ok. Ce qui est ésotérique, c'est ce qui n'est pas visible au premier abord. Ça va être les symboles cachés. Le fait qu'une structure dans la cathédrale va être illuminée via tel vitrail le jour de l'équinoxe. Ça va être le fait que l'église est orientée vers Jérusalem. Par exemple, tu vois ? Mmh. Voilà. Donc l'ésotérisme, quand on parle d'ésotérisme, on fait référence à des choses qui sont encore plus profondes que les choses de base. Je ne sais pas comment dire ça.
Ouais, ça reste visible, si on le cherche.
L'ésotérisme, c'est un sujet compliqué encore une fois, mais ce qui est ésotérique, c'est ce qui n'est pas visible au premier abord et c'est ce qui va être en creux à l'intérieur.
Ouais, mais du coup, l'ésotérisme, c'est interprétable de n'importe quelle façon.
Exactement.
Parce que toi, tu me dis que l'église, elle est tournée vers Jérusalem, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, elle est tournée à l'opposé de quelque chose d'autre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non,
ouais,
je vais trop loin.
Si tu veux, le truc, c'est qu'il y a l'apparence. Ben, je sais pas, après, le problème, c'est que ça demande de partir dans des sujets très spirituels et voire justement ésotériques. Mais par exemple, je sais pas, il y a des phrases comme le royaume des cieux est en toi, tu vois. D'un point de vue exotérique, bah, ça veut pas dire grand chose. C'est-à-dire concrètement, bah, t'as Dieu, que t'es un peu une partie de toi, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Je sais pas, hein, c'est une interprétation. Ésotériquement, ça voudrait dire qu'en fait, t'as tout en toi, que t'as accès à une puissance folle, ou je sais pas.
T'as créé l'éphéméride d'Hermès. Donc j'invite les gens à télécharger l'application, l'éphéméride d'Hermès, à le suivre sur Instagram s'ils le veulent. Qu'est-ce que c'est, l'éphéméride d'Hermès?
Alors l'éphéméride d'Hermès, c'est une appli donc, que j'ai créée en 2008 suite à un financement participatif. Ça vient de éphéméride, qui est une éphéméride, c'est simplement, tu sais, ces espèces de calendrier quotidien où tu as une petite phrase et le numéro du jour. Et d'Hermès, parce que Hermès est un dieu grec, comme tu le sais, que j'aime beaucoup, puisque Hermès est dans le non-jugement. Hermès amène les âmes aux enfers. Il va aussi dans le monde des dieux. Donc il va sans jugement dans le bien, dans le mal, et il apporte de l'information. Et donc l'éphéméride d'Hermès, voilà, c'est déjà le nom explique ça. Ensuite, ce que c'est un contenu quotidien où chaque jour, tu as une action, une réflexion ou une inspiration, quelque chose que tu vas lire en 2 minutes sur ton téléphone et qui va te permettre de réenchanter ta journée, c'est-à-dire de faire de nouvelles actions, de te poser des nouvelles questions et in fine de grandir.
Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dedans ?
Alors, dans ce qui est des actions, ça peut être aujourd'hui comme proposition de sourire lorsque tu marches dans la rue. Ou de te tenir droit. Tout ça a une explication. Par exemple, se tenir droit, dans le règne animal, les animaux qui se tiennent droit, les épaules droites, ils vont avoir un tempérament plus dominant et donc avoir beaucoup plus confiance en eux. Ceux qui ont les épaules courbées, au contraire, vont avoir moins confiance en eux. Et ça, c'est mécanique. La science l'explique très bien. C'est-à-dire que si moi, je me tiens mal à force d'être sur mon téléphone toute la journée, au fur et à mesure, ça va bouffer ma confiance en moi. Donc, tu as des exercices comme ça, tout simples, à faire pendant ta journée, qui sont de l'ordre des actions. Ça peut être aussi... Aujourd'hui, donne quelque chose à quelqu'un sans que cette personne ne te remarque. Ça fait travailler donc la vertu, tu vois. Après, t'as des réflexions, comme, tu vois, par exemple, le homard. Je sais pas si tu sais comment ça marche, un homard.
Tu sais comment ça se cuit, moi.
Le homard, est-ce que tu sais que ça change de carapace dans sa vie ?
Non, bah, tu vois, non.
Tu vois, c'est des connaissances comme ça. Alors, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on a à foutre que ça change de carapace ? Ok, je comprends. Alors, l'idée de la carapace du homard... C'est qu'en fait, il y a un moment, il est trop à l'étroit dans sa carapace. Là, il décide d'aller se cacher sur un rocher. Il change de carapace et il revient. Et l'idée, c'est qu'en fait, pour grandir, parfois, on a besoin justement de se mettre dans un coin, de réfléchir, de se poser. Et puis, justement, là, à ce moment-là, on va grandir. Donc ça, c'est des réflexions qui peuvent avoir un trait avec la science en général, le règne animal ou peu importe. Et puis ensuite, il y a toute une partie fable ou histoire. Par exemple, je peux t'en raconter une si tu veux.
Mais avec plaisir. C'est l'heure de la fable de François.
Ça s'appelle l'écho. Il y a fort longtemps, par un lundi matin de janvier, un père et son fils avaient pris la route à travers les montagnes pour se rendre dans un village lointain. Ils marchaient depuis seulement 10 minutes quand l'enfant trébucha lamentablement dans un crottin de cheval frais. À sa grande surprise, lorsqu'il cria « Ah !»
Très bien.
Merci. Il s'entendit en écho dans la crevasse. Curieux, il demanda « Qui es-tu ? » Il reçut comme réponse « Qui es-tu ? » « Montre-toi, Froussard ! » « Montre-toi, Froussard !» Alors il regarda son père et lui demanda « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Après de longues secondes humiliantes où le père se tordait de rire, il répondit enfin « Mon fils, ouvre tes oreilles. » Et il cria vers la crevasse « Je t'admire. Tu es le meilleur !»
Tu es le meilleur.
Le garçon fut surpris sans bien comprendre, alors son père lui expliqua. Les gens le nomment écho, il est le symbole de la vie. Il te renvoie tout ce que tu dis ou fais. La vie est comme cet écho, c'est simplement le reflet de tes paroles, de tes pensées, de tes actions. Si tu veux plus d'amour dans le monde, commence par en avoir plus dans le cœur. Si tu veux que ton équipe soit plus performante, commence par être plus performant. Cela marche pour tout. C'est cela la vie, et ça te donnera toujours ce que tu lui donneras.
Donc on peut retrouver ce genre de fable sur l'éphéméride d'Hermès. Donc en fait, en gros, c'est...
C'est une surprise chaque jour.
C'est une surprise chaque jour pour aller mieux.
Pour aller mieux, on n'a pas besoin d'aller mal, hein, tu vois.
Pour aller bien.
Bah, c'est censé se tirer vers le haut. C'est la promesse, c'est réenchante ton quotidien. Donc oui, il y a un côté pour être heureux, mais parfois, c'est pas toujours agréable de se regarder. Parfois, tout le monde, n'importe qui a déjà médité une fois, surtout au début, sait que il y a tout un torrent très difficile à accepter au début parce que on se retrouve face à soi-même. Et tu vois, les gens ont souvent plus intérêt à fuir et à être dans l'action pour faire une fuite vers l'avant plutôt que se poser des questions. C'est pour ça que très peu de gens se posent des questions. Donc l'éphéméride veut réenchanter ta journée, certes, mais ça te fera quand même te poser des questions. Donc.
Ton regard sur la société aujourd'hui, c'est quoi ? Est-ce qu'elle manque justement de cette spiritualité ?
Alors j'adore cette question, et tu sais que j'ai beaucoup d'utilisateurs qui me la posent. Et je vais être très mauvais témoin, j'en pense rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que la vie c'est terrible, qu'en ce moment on vit une période très dure. Moi je suis... En fait, non. Tu sais, moi, en fait, je suis très... C'est étrange que je vais te dire, mais je suis toujours agacé quand on critique la vie. C'est-à-dire que n'importe quel obstacle dans la vie, c'est une opportunité de grandir. Et j'ai l'impression que toujours être en train de dire que notre époque est terrible... Enfin, il y a quand même eu des époques bien plus terribles, tu vois. Entre la peste noire, toutes les guerres... Enfin, on est quand même particulièrement en paix. C'est quand même hallucinant. Et puis, tu vois, le côté confinement, par exemple. c'est une merveilleuse méditation. Les gens sont bloqués chez eux. Alors certes, c'est hyper dur et ce que je dis est provocateur. Mais ça fait quand même quelque chose où les gens sont obligés de se poser des questions. Et je te pose une question, Camille. Tu penses pas que les gens vont ressortir de ça grandi ?
Non. Enfin, pour certains, oui. Comme moi, comme toi. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien parce que inconsciemment, sans être spirituel comme toi, c'est ce que je me suis dit. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, les gens, en fait, se font chier. Quand ils se font chier, ils deviennent cons. Voilà, ça c'est mon point de vue. On débat un petit peu d'envie aussi. C'est que tu n'y a qu'à remarquer à quel point depuis ce confinement, les gens cultivent leurs différences et veulent imposer leurs différences. Et avec le droit à la différence, font de la différence de droit. Voilà.
Alors, ok, moi j'ai...
Et en fait, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que au lieu de se dire que peut-être c'est un moment pour réfléchir, bah, les gens préfèrent critiquer la vie. Et ne plus l'aimer, et voilà.
Mais comment tu le sais, ça ?
Parce que, il suffit de regarder juste l'actualité et regarder autour de nous.
Mais non, mais tu l'as tout dit. Le truc, c'est que t'es pas obligé de faire ça.
Exactement.
Et si t'es toi-même, tu souhaites incarner le changement que t'as envie de voir, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. T'es obligé de passer par là, de couper cette case. Parce qu'effectivement, les infos, c'est un flux qui est fait pour te fasciner. Le flux qui est fait pour te fasciner, il est là pour faire des divisions, pour que les gens s'entrechoquent et que ça fasse du buzz. Donc, il n'y a aucune paix là-dedans. J'ai rien contre, mais ça agite l'esprit. Et effectivement, je ne sais pas si c'est la réalité. Je ne sais pas si la réalité, c'est pas juste de regarder par la fenêtre, tu vois.
Donc oui, donc la société ne manque pas particulièrement de spiritualité. Elle manque juste peut-être de réflexion.
Alors, si, je pense que... Si tu veux, ce que j'en pense, c'est que moi, j'aurais tendance à croire que la nouvelle spiritualité, c'est l'écologie. C'est-à-dire que ça revient à un but qui transcende l'homme. C'est-à-dire que passer ta mort, passer ta vie, il y a quelque chose qui perdure et que tu essaies de nourrir. Je pense que les gens, la nouvelle spiritualité pour beaucoup, c'est l'écologie qui est un refuge. Je pense aussi que ça va monter en flèche à niveau que on arrive dans une société où les progrès scientifiques vont peut-être être de plus en plus bridés, notamment parce qu'on va peut-être être de plus en plus bridé à mesure que la société a déjà fait tous les progrès capitalistes possibles et que donc on se rend compte que les ressources sont limitées, donc on va devoir changer de paradigme. Et ce truc de marche ou crève à l'américaine, on voit qu'il s'effrite. On voit que les jeunes, ils sont plus là à vouloir le plus gros salaire, ils sont plus là à vouloir avoir des missions qui ont du sens, tu vois. Chose qui n'arrivait pas à mon époque, hein. Enfin, je crois pas. Notre époque, je sais pas. Non, enfin nous, je sais pas. Tout le monde, c'était genre, gagner un métier qui fasse du fric, prestigieux, mais il n'y avait pas cette notion de qui a du sens.
Oui, mais je suis d'accord, mais même moi aujourd'hui, je le regarde avec, malgré mes 37 ans, avec mon regard de vieux con, quand je regarde des jeunes qui ont 20 ans et leur façon de voir l'avenir, je me dis, ils ont rien compris. Alors qu'en fait, c'est peut-être eux qui ont compris.
En tout cas,
je viens de dire ça. Attention, c'est collector, là. J'ai pas fait le réac, j'en connais qui vont me dire que c'est collector.
Quelle humilité. En fait, ils ont ce truc-là qui est un peu différent, de chercher du sens. Pourquoi pas ? La menace qu'ils ont, eux, par rapport à nous, c'est qu'ils ont une uniformisation encore plus grande que nous. Parce que nous, on avait la télé qui tendait à nous uniformiser, selon certains modèles. Eux, ils ont Instagram. Et donc, forcément, ils suivent tous les mêmes personnes. Et le risque de ça... de jamais mener sa vie, mais de mener la vie de clone de quelqu'un d'autre qu'ils admirent.
À quel moment de ta vie tu sens que tu as besoin de te raccrocher à tout ça ?
Moi, alors, je vais te dire un truc qui est très étonnant. Je suis un type joyeux, en fait.
Je sais que tu es un type joyeux.
Mais j'ai la réponse à ta question.
Mais tu vas pas me faire croire, François, toi, François Croze, que jamais tu n'as des moments où tu flanches et où tu te raccroches à ça.
Bah, en fait, quand je flanche, je me raccroche même pas à ça. Enfin, j'accepte le fait de flancher. J'ai pas besoin de me raccrocher. Quand je plonge, je plonge. Quand je suis triste, tu vois. Si je dois pas être bien pleurer, je pleure. Enfin, tu vois, je laisse passer ce qui passe et j'accepte, en fait. Donc, je pense pas grand-chose de moi, si tu veux. Et je pense que c'est une des clés, tu vois. À partir du moment où tu te dis, je suis un mec du matin, je suis un mec du soir, je suis un mec comme ci, je suis un mec comme ça. Déjà, tu cristallises des trucs qui sont faux, en fait. T'es ni ceci, ni cela. Moi, j'essaie juste de pas penser grand-chose de moi. Quand j'ai une émotion qui me traverse, j'essaie de la vivre et de l'accepter. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est de se raccrocher à... Moi, j'ai été étonné de voir dans la spiritualité, quand j'ai fait mon application, que gravitaient beaucoup de gens qui avaient eu des grosses blessures, tu vois. Des choses dures à gérer dans leur vie. Et en fait, pour beaucoup, la quête de sens, elle est nécessaire parce qu'un événement est trop dur à gérer. La mort d'un proche, une maladie. Pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois ? Pourquoi t'as 20 ans, t'as un cancer, c'est horrible, tu vois, pourquoi ? bah, les gens, ils cherchent des réponses aussi. Et donc, le sens peut amener des réponses et aider à cicatriser. Moi, c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de clientèle comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la quête de sens, elle te rattrape un jour. C'est rare chez les jeunes, c'est moins rare chez les jeunes qui ont souffert, mais c'est très fréquent chez les vieux. D'ailleurs, tu vas à la messe, il y a que des vieux.
Oui.
Tu vois ? Parce que quand la mort approche, quand tu frôles la mort, la question du sens, elle devient impérative dans ta vie. En fait, tu peux pas rester là à te dire, en fait, mais qu'est-ce que je fous là ? Non, t'as besoin de savoir. Tu te dis, mais attends, pourquoi je vis ? Tu vois ? Et donc, la souffrance déclenche ça. Mais si tu le déclenches avant que la souffrance ne la déclenche, t'as peut-être moins besoin de vivre la souffrance, que la souffrance, elle est là juste pour te faire évoluer.
Oui, du coup, du coup, ta souffrance, tu la vis différemment. Et...
Déjà, ouais.
Et peut-être, bah, je dirais pas mieux, parce que tu vis... Comme dit Anton, notre ami Anton, il n'y a pas de bonne façon de se faire du mal. Mais oui, parce que lui aussi peut faire... Vous retrouverez bientôt Anton hein, au micro. Mais il n'a pas tort dans ce truc-là. Il n'y a pas de bonne façon de souffrir. Mais du coup, c'est vrai que tu la relativises peut-être un peu plus. Et c'est ce que c'est bien, ça m'amène à ma question d'après. Est-ce que quelle clé, quel secret, toi, tu donnerais aux gens pour pouvoir peut-être vivre les choses un peu... plus légèrement et justement moins critiquer la vie et être plus en harmonie avec ce qui les...
C'est vraiment très propre à chacun. Tu vois, l'éphémérite, ça t'apporte un truc très différent d'un jour sur l'autre parce que j'aime bien l'idée que les gens reçoivent le contenu du jour et puissent se dire « Oh la vache, ça fait écho à ma situation en ce moment. » Et toujours, je reçois des mails comme ça. Mais en fait, c'est très différent d'un moment sur l'autre et... Ça dépend de quoi t'as besoin ce jour-là, quoi.
Et ça t'arrive qu'il y ait des gens qui disent « Mais pourquoi je ferais cette quête ? Elle ne m'apportera rien ?»
Non.
Non.
Non, je pense que dans ces cas-là, non. En fait, j'ai un public qui est génial. C'est-à-dire que ça brille dans les commentaires. C'est-à-dire que les commentaires sont bien plus brillants que tout ce que j'écris. Je suis hyper fier de ça. Je suis très fier des gens qui me suivent. Ce sont des gens très bienveillants. J'ai vraiment des retours géniaux. Quand il y a des trucs qui vont pas et ils me le disent mais sans être trop désagréable heureusement donc ouais,
moi j'avoue que j'ai l'éphémérite d'Hermès, mais c'est quelque chose qui me fait peur, enfin tu me connais, moi c'est
ah ouais,
ah bah oui, moi je m'accroche à mon pragmatisme à mort, c'est ma façon de me dire que non, je ne veux pas accepter le fait que je peux réfléchir de cette manière, je veux absolument rester terre à terre.
Et t'as peur de t'envoler si t'es pas
terre
à terre ? Non, mais en vrai, t'as peur de quoi ?
Bon, bref, c'est pas mon podcast, c'est le tien. Est-ce que tout ça, c'est une ouverture vers l'autre ? Vers les autres ? Est-ce que ça te permet de t'intéresser à eux ? Parce qu'on a beaucoup parlé du fait que c'est un travail sur soi, mais est-ce que du coup, ça permet aussi un travail vers les autres ?
Je prends un exemple. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y a une période où où je parlais, par exemple, parfois. Et les gens pouvaient se dire « Oh, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est touchy, j'en sais rien. » En fait, par exemple, si tu fais le silence, par exemple, il y a un contenu du jour, une quête qui s'appelle le silence. Tu vois, ça te dit « Voilà, aujourd'hui, tu ne parles pas, sauf si c'est nécessaire de parler. » On est d'accord que c'est un travail intérieur. Tu as juste à ne pas parler et à écouter les autres.
Je suis incapable.
Quel intérêt de faire ça ? L'intérêt de faire ça, c'est que quand tu te tais complètement et que tu sais que tu ne vas pas parler, quand le type en face te parle, tu vas pas être là en train de te dire « Ah tiens, ça me fait penser à ça, j'attends qu'il finisse sa phrase, je l'expédie, je lui balance ma phrase. » Non, tu peux pas faire ça. Donc t'écoutes vraiment. Et là, tu remarques des trucs que t'as jamais remarqué. Tu te dis « Ah, c'est dingue, le mec se met en avant, il frime. » Ou « Putain, mais ça, mais... » Et pourquoi il dit ça ? Est-ce que c'est pour me convaincre de faire quelque chose ? Mais qu'est-ce qu'il veut, en fait ? Tu te concentres à te poser des questions, tu vois. Et... Mais est-ce qu'il fait ça pour se mettre en avant ? Est-ce qu'il fait ça pour frimer ? Est-ce qu'il fait ça pour me convaincre de quelque chose ? Mais pourquoi il voudrait me convaincre ? Et pourquoi je suis aussi important pour lui ? Tu te poses toutes ces questions. Et tu remarques que, en fait, tu ne parles pas tant de ça de lui, mais que de toi. C'est-à-dire que toi, tu as les mêmes mécanismes. Toi, tu remarques que, en fait, toi, tu fais pareil. Toi, tu remarques que tu parles parce que ça te permet de te mettre en avant, parce que tu veux convaincre les gens. Et tout ça, tu n'en avais pas conscience, vraiment. Mais en faisant ce travail-là sur toi et envers les autres, tout s'ajuste. Donc, tu vois, c'est la même chose.
Je vois. Ouais, non, mais c'est clair. Tiens, petit passage rigolo. Dans tes rapports avec les femmes, ça a déjà posé problème parce qu'elle te comprenait pas.
Oh non, jamais. Ou alors c'était trop tôt pour que ça soit un problème. C'est-à-dire que je pense que j'ai pu rencontrer des filles que j'ai pas matchées parce qu'il y avait un truc de décalage, si tu veux, ou Elle disait, ce type est un espèce de savant fou, j'en sais rien.
Voilà.
Ça a dû arriver. Mais non, pour tout le reste, ça a plutôt été un avantage parce que ça entretient une certaine légèreté de la vie, dans le sens où les choses sont pas si graves. Tu vois. On arrive, on est, il y a un moment on meurt, pas besoin de se flageller toute la journée à se dire ah j'aurais dû faire ci, gna, gna, gna. Tout ça c'est pas productif. Tu vois. Lâche-toi la grappe, fais tes trucs, ça va, souffle, et bah tout va bien.
De toute façon, on va y passer.
On va y passer. L'important, c'est de faire des trucs entre les deux, de vivre. Ok, mais voilà, y a pas besoin. Les choses n'ont pas besoin d'être graves. Voilà.
La question habituelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Alors, ce que vous pouvez me souhaiter, et alors, ça c'est important, je compte vraiment sur toutes les personnes qui vont écouter ce podcast pour me souhaiter ça intérieurement et de manière très forte pour que le rituel magique puisse se mettre en place. je suis en train de faire l'éphéméride à l'international là et ça va sortir dans un mois ou deux aux quatre coins du monde anglophone. Donc si vous pouvez me souhaiter que ça marche, ça va s'appeler Flamel. J'ai décidé de mettre un nom plus court, Flamel étant un alchimiste français.
C'est surtout en anglais, l'ephemery de masse.
D'ailleurs, en français, c'est compliqué. Je veux te dire, les types, ils ont l'appli. D'ailleurs, il y a de l'appli sur mon téléphone. Ça fait l'ephemery. Vous avez des petits points après. Donc, le nom, écoute, voilà, c'était ma première appli. J'ai choisi ça. Voilà. Là, je vais faire mieux. Et vous pouvez me souhaiter que ça. Et que l'ephemery se développe. Et par ailleurs, moi, je vous souhaite à tous d'être très heureux. Et puis surtout de lire l'ephemery. Parce que c'est quand même extraordinaire.
Bon, moi en tout cas, je souhaite évidemment que tout ça fonctionne pour toi, tu le sais. Tu sais à quel point, même si je ne suis pas toujours accro à tout ce que tu dis, ça m'a toujours fait travailler quand même, chaque fois qu'on a eu des discussions. Merci François pour cet instant spirituel.
Merci Camille de m'avoir reçu.
Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier. Pour finir, je citerai cette phrase de l'auteur indo-américain Deepak Chopra. Il dit « La religion, c'est de croire en l'expérience de quelqu'un d'autre. La spiritualité, c'est de vivre sa propre expérience. » Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas qu'extraordinaire ou classique, chaque vie mérite d'être racontée. À bientôt.